السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود النار ذات الوقود إذ هم عليها قود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن آيات کا ترجمہ ہے.
La traduction de ces versets est comme suit. Par le ciel contenant des constellations d'étoiles, et par le jour promis, et par le témoin, et celui pour lequel le témoignage a été porté. Maudits soient les gens défaussés. Maudits soient les gens défaussés à l'humeur du feu plein de combustible lorsqu'ils étaient assis tout autour, et ils furent témoins de ce qu'ils firent aux croyants. Et ils ne les haïssaient que parce qu'ils croyaient en Allah, le puissant, le très louable. Allah, le puissant, le très louable, à qui appartient le royaume des cieux et de la terre, et Allah est témoin de toutes choses. En vérité, ceux qui persécutèrent les croyants et les croyantes, ensuite ne s'en repentent pas, il y a sûrement pour eux le châtiment de l'enfer, et pour eux est le châtiment du feu. En vérité, pour ceux qui croient et font de bonnes œuvres, il y a des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. C'est là le grand triomphe. C'étaient les versets de la sourate Al-Buruj. Dans ces versets, l'on trouve mention du fait que les enseignements de l'islam seront toujours protégés à toute époque. Et on trouve mention de l'avènement du Messie pour la renaissance de l'islam. Et on y trouve mention aussi de l'inimitié à l'égard du Messie promis et de sa Jamaat. Ces versets préparent aussi les membres de la Jamaat pour des sacrifices. Il est dit qu'ils doivent se préparer pour cette persécution qu'ils vont subir. Ils vont souffrir et ils seront persécutés pour une longue période. Mais face à tout cela, Allah ne restera pas les bras croisés. Le jour viendra quand ceux qui persécutent les croyants vont voir le feu de l'enfer. Ils vont brûler dans un plus grand feu que celui dans lequel ils veulent brûler les Ahmadis ou dans lequel ils sont en train de brûler les Ahmadis. Alors que pour les croyants et les croyantes, les Ahmadis, il y aura le paradis, il y aura du succès. La Jamaat, ici-bas sur terre, aura de bonnes nouvelles de sa victoire. Et tout croyant a aussi la bonne nouvelle du succès dans l'au-delà. Voilà donc le résumé du sujet qui a été évoqué dans ces versets. Quand nous méditons sur ces versets, quand nous le regardons en détail, et quand on étudie cela à la lumière de la situation de la Jamaat d'aujourd'hui, d'une part, nous grandissons de notre certitude quant à la véridicité du Saint-Coran et quant à la véridicité du Saint-Prophète, paix soit sur lui. Et nous grandissons de notre foi et dans notre certitude en Dieu, à savoir comment ces prophéties ont été faites 1500 ans de cela. Comment, 1500 ans de cela, on a brossé le tableau de la situation d'aujourd'hui et que cela est en train de s'accomplir aujourd'hui. Il a été dit qu'à toute époque, l'islam sera verdoyant, même si cela va se faire dans des régions restreintes parmi des personnes limitées, mais l'islam sera toujours là. Ici, dans ces versets, on est en train de donner de bonnes nouvelles en ce sens. Ensuite, on a donné la bonne nouvelle de quelqu'un qui viendra et qui va accomplir la tâche du Saint-Prophète Mohammed B. lui et qui va transmettre aussi son message. Il ne va pas le faire dans une région restreinte, tout comme cela se fait à l'époque des premiers réformateurs, mais il va transmettre ce message dans le monde entier, parmi tous les peuples. Et il va faire briller la véridicité du Saint-Prophète Mohammed B. lui. Voilà une des prophéties qui a été mentionnée ici. Et dans chaque pays du monde, il y aura une Jamaat qui sera établie et qui va présenter au monde sa déclaration de Dieu, déclaration que Dieu a faite au nom du Saint-Prophète, où il est dit « Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaykum jami'a ». C'est cette Jamaat qui a eu connaissance de cela. C'est ce témoin, le Messie promis, qui a transmis cela. Ainsi, tout cela est en train de présenter au grand jour la véridicité du Messie promis et de sa Jamaat. Nous sommes chanceux, nous qui font partie de la Jamaat du Messie promis, nous qui nous sommes cramponnés à ce témoin qui a témoigné en faveur du saint prophète, paix soit sur lui, et qui est venu afin de faire progresser la mission du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Il est venu faire comprendre au monde la véridicité du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a été envoyé par la grâce de Dieu suite à ses promesses. Dieu l'a envoyé au monde afin de présenter les enseignements sublimes de l'islam et afin de démontrer que les enseignements de l'islam sont supérieurs aux autres. Et le Messie promis a débarrassé l'islam de toute forme d'innovation et de toute pratique inutile, et il a présenté au monde les enseignements sublimes de l'islam. Et il a fait comprendre aussi au monde le statut sublime du saint prophète, paix soit sur lui. Avant l'avènement du Messie premier, l'islam, et de ses déclarations, en voyant la situation de l'islam, nombre de personnes avaient ressenti le besoin de ce témoin. Ces personnes qui ressentaient une grande douleur pour l'islam étaient anxieuses. C'est pour cette raison qu'un poète a déclaré que « Il ne reste plus de foi, il ne reste plus de l'islam, il ne reste de l'islam que son nom ». Ce cri de détresse n'était pas le cri d'une seule personne. C'est un cri qu'on lançait partout, par différentes personnes. Ainsi donc, le Messie promis, alayhi salam, est venu au moment où on avait besoin le plus de lui. Ce n'est pas à l'époque du Messie promis, alayhi salam, qu'on a déclaré qu'on avait besoin d'un réformateur. Mais aujourd'hui aussi, on ressent le besoin de l'avènement d'un réformateur, d'un amoureux parfait du saint prophète. Le monde est en quête d'une telle personne. Toute personne noble de caractère désire l'avènement de quelqu'un qui puisse réformer les musulmans. Dans mon discours de la Jalsa cette année-ci, j'ai parlé en détail à ce sujet et j'ai cité les noms d'Ahmadi à ce sujet. Je ne vais pas entrer en détail ici, mais en tout cas, tout Ahmadi comprend très bien que le Messie promis à l'islam est venu pour la renaissance de l'islam. Et non seulement les Ahmadis, mais toute personne de noble caractère des non-Ahmadis aussi accepte ce fait. À savoir que c'est la Jamaat Ahmadiyya qui est en train de servir l'islam. J'en ai fait mention dans un de mes précédents sermons. Lors d'une réunion des avocats non-Ahmadis, on dit que si on doit faire des efforts de la part des avocats, eh bien seule la Jamaat Ahmadiyya pourra organiser cela. Et quel que soit le domaine, lorsque la Jamaat Ahmadiyya fait des efforts, ce sont ces efforts qui sont loués par les autres, car ils disent que c'est cette Jamaat qui est organisée, c'est elle qui pourra organiser cela. C'est là une vérité. Si l'on regarde cela en toute justice, on va voir cela de plus près. À savoir que aujourd'hui, c'est le Messie promis, alayhi salam, qui est en train de témoigner de la véridicité du saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et on ne trouve pas de témoignage comparable à cela. Et sous l'influence de ces enseignements, la Jamaat qu'il a établie et cette Jamaat qui est en train de défendre le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, contre tout assaut malveillant, contre toute langue malveillante, c'est cette Jamaat qui est en train de réagir positivement. Voyons un peu la réaction des autres musulmans. Par leur réaction à eux, ces musulmans sont en train de renforcer davantage les forces anti-islamiques, sont en train de leur accorder davantage l'occasion de parler contre l'islam. Ils sont en train de leur accorder l'occasion de critiquer davantage l'islam, de se moquer de lui davantage. Lorsque ces non-musulmans regardent les fatwas de ces soi-disant ulémas, ils constatent que ces ulémas sont en train d'appeler au meurtre, ou ces ulémas dans leur pays sont en train de détruire les biens de leur peuple, ou ils sont en train de faire tuer leurs concitoyens. Voilà donc leur réaction à eux. Mais lorsque ces gens regardent la réaction des Ahmadis, il y a de nombreux non-musulmans qui sont imbus de justice, qui ont une certaine noblesse de caractère. Lorsqu'ils nous écoutent, lorsque les Ahmadis présentent l'image véritable de l'islam à ces personnes, eh bien, nombre d'entre eux sont embarrassés. Et ces personnes condamnent ceux qui sont en train de critiquer le saint prophète, Mohammed paix soit sur lui, ou ceux qui sont en train de le ridiculiser. Quelques jours de cela, j'ai reçu un rapport suite à une réception organisée quelque part. Un Ahmadi m'a dit que on avait organisé cette réception et un chrétien a commencé à louer le saint prophète, Mohammed paix soit sur lui. L'Ahmadi a dit que j'avais des larmes aux yeux. Comment Dieu a fait naître parmi ces gens des personnes qui ont compris le statut véritable du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et qui sont en train de transmettre cela aux autres. Ainsi, parmi tous les peuples, il y a des bons et des mauvais. Et nous devons, quant à nous, présenter cela au monde. La réaction des Ahmadis est qu'ils doivent présenter au monde les traits de caractère du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Ils doivent présenter au monde les enseignements sublimes de l'islam et doivent informer le monde que le salut du monde passe par l'entremise de ce prophète. On doit informer le monde que c'est l'enseignement de l'islam qui est la loi parfaite, l'enseignement parfait. Et c'est cet enseignement qui va mener dans la direction de Dieu. Si vous désirez le salut, eh bien, suivez ce prophète, cramponnez-vous à ce prophète et à son enseignement. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a transformé des bédouins, des illettrés, en hommes de Dieu. Et il a fait de ces personnes des ambassadeurs de l'amour et de la fraternité, des personnes qui étaient imbues pour l'amour de l'humanité. Ainsi donc, voilà le miracle montré par l'islam. Voilà le miracle du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Et c'est pour renouveler tout cela, c'est pour informer le monde à ce sujet que Dieu a envoyé le Messie promis, alayhi salam, cet amoureux parfait du saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Le Messie promis, alayhi salam, qui a été qualifié de témoin dans ces versets. En tout cas, je vais parler à propos de ce témoin que Dieu a envoyé et quelle a été la réaction des musulmans après ces déclarations. Les musulmans avaient ressenti ce besoin, tout comme je l'ai déclaré. Ils avaient ressenti ce besoin et ils avaient exprimé aussi ce besoin. Mais lorsque Dieu a envoyé ce témoin qu'ils attendaient, eh bien, quelle fut leur réaction à eux? Comment est-ce que ces musulmans ont répondu à ces déclarations? En tout cas, il devait en être ainsi, car ces versets nous font comprendre que telle sera la réaction de ces personnes. Voilà ce que Dieu a déclaré dans ces versets. Quand le Messie promis à l'Islam sera envoyé pour ancrer dans les cœurs l'amour pour le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, Et quand il viendra pour présenter au monde les enseignements sublimes du Saint-Coran, lui et sa Jamaat vont passer par des situations très périlleuses. Ils vont faire face à une animosité, à une persécution des plus terribles. Il y avait ceux qui l'attendaient, ceux qui disaient qu'il ne reste de l'islam que le nom. Et il y avait aussi les ennemis de l'islam qui attendaient que l'islam disparaisse. Ces deux groupes de personnes ont fait des efforts concertés contre ce témoin qui a été envoyé. C'était eux qui allaient faire ces efforts pour rallumer ce feu. C'était eux qui voulaient le mettre dans le feu. Voilà la situation de ces personnes. D'une part, ils sont en train de pleurer sur la situation des musulmans. Mais d'autre part, ils sont en train de pousser au loin leur animosité à l'égard de cet envoyé de Dieu. Allah déclare que ces personnes sont en train d'allumer ce feu, mais ces personnes seront maudites pour cette raison. Mais les croyants ne doivent pas se contenter de cela. Les croyants doivent certainement consentir à faire des sacrifices. Et ces sacrifices ne seront pas temporaires. De temps en temps, les ennemis vont allumer ce feu. Et de temps en temps, l'on va persécuter les Ahmadis. Et le progrès de l'Ahmadiyya, le progrès de l'islam véritable sera le résultat de ces sacrifices. Et son progrès sera la conséquence de ces exactions. Le Messie promet l'islam dans ses écrits, à plusieurs reprises, a attiré notre attention à ce sujet. Il a attiré notre attention à ce propos. Ainsi donc, la persécution des Ahmadis, la perte de biens et de vie des Ahmadis, le boycott qu'ils sont en train de subir. Et comme on le sait, au Pakistan, cela est en train de prendre de l'ampleur. Le fait que des élèves Ahmadis subissent des avanies entre les mains des maîtres d'école, entre les mains des professeurs et entre les mains des autres élèves. Les efforts que l'on est en train de faire pour mettre à mal leurs études. Les efforts que l'on est en train de faire pour expulser les étudiants Ahmadis des universités. Dieu nous avait annoncé auparavant que tout cela allait se faire. On va allumer différents types de feux. C'est vrai aussi qu'on a allumé aussi des feux physiques contre des Ahmadis. Il y a eu des troubles en 1973, on a incendié des maisons des Ahmadis et on avait aussi essayé de brûler vivants des Ahmadis. Et la police a regardé le spectacle. Mais on a aussi allumé d'autres types de feux. Dieu avait informé le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que la personne promise qui viendra pour la renaissance de l'islam, lui et ses suivants, seront âprement persécutés. Ils seront persécutés par des musulmans. Les hadiths nous expliquent aussi que, quand les musulmans seront corrompus, Dieu questionnera le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et le saint prophète Mohammed paix soit sur lui va répondre tout simplement que tant que j'étais parmi eux, j'étais leur gardien. Mais par la suite, ils se sont corrompus. Il va donner la même réponse que Hadrat Isa alayhi salam. Et pour réformer cette situation, suite à ses promesses, quand Dieu va envoyer son Messie et son Mahdi, ces gens vont allumer un feu contre lui. Et il ne cesse d'allumer ce feu. En tout cas, le Messie promis à l'Islam nous a préparés pour cela. Il a attiré notre attention à ce sujet, il a souligné ce point, il a dit qu'il y aura des heures difficiles, de grandes épreuves, des calamités, et qu'il faudra endurer tout cela avec patience. Il déclare que ceux qui seront persévérants jusqu'à la fin, bien qu'ils seront violemment secoués par des calamités, et qui devront faire face à des tempêtes, et que des peuples fera d'eux la cible de la dérision et du persiflage, et que le monde les regardera avec répugnance, ceux-là auront la victoire et les portes des bénédictions leur seront ouvertes. Il déclare, Dieu m'a dit d'annoncer à ma communauté que ceux dont la foi en moi n'aura pas été entachée par les désirs de ce monde, de l'hypocrisie ou de la lâcheté, et dont la foi n'aura pas été dépourvue d'aucun aspect de l'obéissance, ces personnes seront ses élus. C'est à propos de ces personnes que Dieu déclare qu'ils marchent sur le chemin de la vérité. Dans son livre « Fateh Islam », le Messie promis à l'Islam a déclaré que ce sera la victoire de la vérité. Et encore une fois, on va voir ce jour éblouissant de la victoire de l'Islam, quelque chose que l'on a vu dans le passé. Et ce soleil va resplendir tout comme il avait resplendi dans le passé. Mais il n'en sera pas ainsi. Le ciel va devoir le retenir. Et il en sera ainsi tant qu'on ne fait pas d'efforts jusqu'à meurtrir son cœur. Et pour cela, nous devons sacrifier notre confort. Ainsi, cela ne concerne pas uniquement ces gens qui seront persécutés. Ceux qui ne sont pas persécutés doivent faire des efforts et doivent prier pour ceux qui sont persécutés. Et ils doivent faire naître un éclat particulier dans leur prière, dans leur tahajjud. Ensuite, le Messie promis alayhi salam a déclaré que pour cela, nous allons devoir sacrifier le confort pour la cause de Dieu et nous allons devoir accepter toute humiliation pour l'islam. Il a déclaré, l'islam nous demande une rançon. C'est quoi cette rançon? C'est de mourir sur cette voie. Voilà la mort qui va apporter la vie de l'islam et des musulmans. La manifestation de Dieu dépend de cette mort. Certainement, la victoire finale nous est destinée. Et certainement la victoire de l'islam est liée avec le Messie promis l'islam et sa jamaat. Mais pour cela, nous allons devoir faire des efforts. Dans cette sourate, Dieu a attiré notre attention à ce sujet. Il a déclaré que pour protéger votre foi, vous devez être prêt à vous jeter dans le feu. Il a brossé le tableau de cette hostilité. Au Pakistan, de temps en temps, on est en train d'allumer ces feux contre les Ahmadis. Et on ne cesse d'allumer ces feux contre les Ahmadis. Mais au cours de ces deux dernières années, la situation a empiré. Et cela est en train de prendre de l'ampleur et on ne trouve pas d'exemple comparable dans le passé. Au cours de ces deux dernières années, la Jamaat du Pakistan a fait de grands sacrifices de vie. Et auparavant, on n'a pas fait pareil sacrifice. Ces sacrifices ne seront pas vains. Au contraire, ces sacrifices sont là pour apporter la victoire. Dieu nous a donné des bonnes nouvelles concernant cette victoire. L'histoire en est témoin, à savoir que ces victoires sont les résultats de ces sacrifices. Le Messie promis à l'Islam a déclaré, « Regardez l'époque des compagnons du Saint-Prophète, paix soit sur lui, pour la cause de la foi, ils ont enduré toute souffrance, et ils sont passés par de grandes difficultés. Ils ne se sont pas souciés de leur confort matin et soir. Ils étaient prêts à accepter toute calamité pour la cause de Dieu et ont offert leur vie pour cela. » Ainsi donc, ces paroles du Messie promis alayhi salam, les attentes qu'il a concernant sa jamaat et les sacrifices qu'il attend de sa jamaat, eh bien, sa jamaat s'est souvenue de tout cela. Et la Jamaat est en train de présenter sa vie et de guetter le cœur. Comme je l'ai dit, au cours de ces deux dernières années, la Jamaat a fait de grands sacrifices de vie. Quelqu'un m'a écrit quelques jours de cela en disant qu'il y a eu quelqu'un qui est tombé en martyr quelques jours de cela. Ce fut un jeune qui est tombé en martyr. J'ai téléphoné aux membres de sa famille et un de ses proches a pris le téléphone. C'était peut-être sa mère ou sa sœur. Elle a dit que vous devez nous féliciter car dans notre maison, nous avons eu un martyr. Ainsi, que ce soit des martyrs de Lahore ou que ce soit des martyrs de Mandi Bahaudin ou de Gatialla ou de Karachi, partout, nous sommes en train de voir cet esprit des sacrifices parmi les Ahmadis. Et les Ahmadis comprennent cela, qu'en cela réside notre victoire. Ô vous, ennemis de l'Ahmadiyya, à Lahore, vous avez tué des douzaines d'Ahmadis et vous n'avez pas pu ébranler la foi des Ahmadis suite à ces crimes. Vous n'avez pas pu ébranler la foi des Ahmadis. Ainsi, vous ne pourrez pas ébranler la foi des Ahmadis de Karachi. Certainement, vous ne pourrez pas amoindrir leur foi. Inch'Allah, aujourd'hui, les Ahmadis comprennent cet esprit de sacrifice. Et à l'avenir, ils vont le comprendre aussi, Inch'Allah. Les Ahmadis savent très bien que pour la renaissance de l'islam, on doit être prêt à faire tout sacrifice. Comme je l'ai déclaré, il y a eu plusieurs martyrs à Karachi. Quelques jours de cela, au cours d'une semaine ou au cours de quelques jours, il y a eu trois personnes qui sont tombées en martyr. Il y a quelques-uns qui ont été blessés, leur situation est critique pour certains. Mais comme je l'ai dit, on n'a pas pu ébranler la foi de leurs proches. J'ai déjà cité l'exemple de certaines femmes ici. Certes, l'ennemi est en train de faire de son mieux. Ils essayent d'allumer ce feu et veulent regarder ce feu, tout comme il a été dit dans ce verset, Ithrum alayha qu'ud. Ils sont en train de créer cette situation et veulent voir comment ils pourront nuire aux Ahmadis et comment ils pourront brûler les Ahmadis et à quel point ils auront du succès dans leurs efforts. Et ils sont assis autour de ce feu. Ces ennemis sont en train de surveiller les Ahmadis de près et essayent de les brûler. Et nous avons vu cela dans cette situation. Lorsqu'on avait tué quelques Ahmadis à Karachi, les mollahs et leurs comparses sont partis à l'hôpital. Et ils mettaient de la pression sur les responsables de l'hôpital afin de ne pas traiter les Ahmadis blessés. Tout d'abord, ils ont blessé ces Ahmadis à coups de balle. Ensuite, ils sont partis à l'hôpital, là où on les traitait, et on fait en sorte que ces Ahmadis ne soient pas traités. Voilà donc l'état de ces infâmes. Et ils sont en train de commettre ces atrocités au nom du Saint-Prophète. Le plus grand crime, c'est qu'ils sont en train de prendre le nom du Saint-Prophète. Ils sont en train de citer le Saint-Prophète pour cacher leurs atrocités et leurs crimes. Certainement, ces personnes vont tomber sous la main de Dieu, car non seulement ils sont en train de prendre avec eux des masses ignorantes, et ils sont en train d'attiser leurs passions, et ils sont en train de commettre ces exactions contre les Ahmadis, mais tout comme je l'ai dit, en toute connaissance de cause, ils sont en train d'agir contre les enseignements du Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui, ils sont en train de commettre ces exactions en son nom. Et Allah a déclaré, Falahum azabu Jahannama, walahum azabu al-Hariq. Il y aura le châtiment du feu, il y aura le châtiment de l'enfer pour ces personnes. Ces personnes seront châtiées ici-bas et dans l'au-delà. Ainsi donc, si ces personnes ne se repentent pas, car Allah avait déclaré que s'ils se repentent, eh bien, ces personnes seront pardonnées. Si ces personnes ne se repentent pas, s'ils ne cessent de commettre ces atrocités contre les croyants hommes et femmes, eh bien, ici-bas sur terre, et après leur décès, il y aura un châtiment. Voilà ce qu'a déclaré Dieu. Les croyants sont contents parce qu'il y aura le paradis pour eux. Il y aura un jardin pour eux, un jardin sous lequel coulent des ruisseaux. Certes, ils sont en train de souffrir en ce bas monde, et les ennemis sont en train de les faire souffrir, et l'ennemi pense qu'ils sont en train d'allumer ces feux contre nous. Mais auprès d'Allah, ces croyants vont recevoir ces ombres fraîches et cette eau fraîche, alors que l'ennemi sera destiné au feu de l'enfer, un feu qui sera éternel. Ainsi donc, dans certains cas, certains Ahmadis sont soucieux à propos de cette hostilité, mais ils ne doivent pas se faire des soucis. Les sacrifices des Ahmadis ont déjà été agréés par Dieu 1500 ans de cela, quand le Saint-Coran fut révélé. Ainsi donc, ce n'est pas un honneur ordinaire. Ainsi, tout Ahmadi, qu'il soit au Pakistan, qu'il soit en Indonésie, qu'il soit dans des petits villages de l'Inde, ou qu'il soit dans des pays arabes, les Ahmadis, là où ils sont, lorsqu'ils sont en train de passer par ces atrocités, ces avanies, lorsqu'on est en train de persécuter les Ahmadis au Pakistan, disons qu'ils ne croient pas dans le Saint-Prophète Mohammed, paix soit lui, et que, na'oudhou billah, vous n'acceptez pas le Saint-Prophète comme le Khatam al-Nabiyyin, ou lorsqu'on est en train d'insulter de manière permanente le Messie promis, lorsqu'on essaie de brûler, de meurtrir les cœurs des Ahmadis, quand les Ahmadis font preuve de patience lorsqu'ils se sacrifient pour cette cause, eh bien ces Ahmadis reçoivent ce jardin permanent comme récompense. Quelques jours de cela, on a publié une annonce remplie d'insultes à l'égard du Messie premier alayhi salam, et il y avait aussi la photo du Messie premier alayhi salam dessus. Et les gens sont sortis pour manifester et on a jeté ces annonces sur les gens qui passaient. Et ces gens pensaient que, na'oudhou billah, lorsque les gens vont fouler de leurs pieds cette photo, ils vont avilir le Messie premier alayhi salam, ils vont humilier le Messie premier alayhi salam, ou qu'ils pourront ainsi se venger contre le Messie premier alayhi salam. Voilà ce qu'ils pensaient. Mais cette humiliation qu'ils voulaient lui faire subir, cette humiliation sera la cause de leur châtiment dans l'enfer. Comme je l'ai dit, à Karachi, il y a trois Ahmadis qui sont tombés en martyr. Ces temps-ci, les ennemis de l'Ahmadiyya se tournent dans la direction de Karachi. Je vais, après la prière de Jumma, diriger la prière funéraire de ces martyrs. Qu'Allah exalte le statut de ces martyrs et qu'Allah fasse que chaque goutte de sang de ces martyrs puisse faire progresser l'Ahmadiyya par des centaines de milliers de fois. Certes, pour le progrès de la Jamaat, on va devoir faire des sacrifices, mais nous devons aussi prier, nous aussi, pour qu'Allah accepte ces sacrifices et qu'Allah nous montre aussi ses victoires. Il y a aussi les blessés. Il y a trois personnes qui sont blessées. Priez aussi pour leur santé, pour qu'Allah leur accorde une bonne santé. Je vais mentionner maintenant ces trois martyrs. Le premier martyr est Saad Farouk Saheb, fils de Mokaram Farouk Ahmad Kahloun. Il est tombé en martyr le 19 octobre dernier. Il était de la région de Baldia Town, Karachi. C'est son arrière-grand-père, Chaudhry Alabakhsh Kahloun, qui avait embrassé l'Ahmadiyya. En premier, il était de Sheikhupura. Il était parti à pied de son village à Kadian. En 1962, il s'était établi dans la région de Laïa et le père du martyr s'est établi à Karachi et ils ont lancé leur business là-bas. Le martyr lui-même, il est né le 5 octobre 1986. Il avait fait ses études en ingénierie électronique. Ensuite, il a commencé son business le 15 octobre, c'est-à-dire quelques jours de cela, il s'était marié. Et après 3 jours, il est tombé en martyr. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le 19 octobre dernier, c'était le vendredi, Saad Farouk, son père, Farouk Ahmed Kahlon, le président de la Jama'a de la région, qui était accompagné de ses proches, ils sont tous sortis de la mosquée pour partir à la maison. Saad Farouk, le martyr, était à moto, alors que son père, Farouk Ahmed, son beau-père, Nusrat Mahmoud, son frère, Hamad Farouk, et son oncle, Mansour Saheb, tous étaient à voiture, sauf le martyr. Ils étaient tout proches de leur maison quand deux personnes à moto ont tiré sur le martyr, Saad Farouk. Il a été touché sous l'oreille. Il a été blessé gravement et les assaillants se sont tournés vers la voiture et ont tiré sur la voiture et le père du martyr qui conduisait la voiture a reçu 5 balles. 2 balles sont passées sur son épaule et une des balles est passée au-dessus de son épaule. Azizam Ahmad Farouk a reçu 1 balle à la tempe, 1 balle qui est restée dans sa tempe. Le beau-père du martyr, Chaudhry Nusrat Mahmoud Saheb, qui était dans la voiture, a reçu 3 balles. Sa situation est toujours critique. Un de leurs proches, M. Ashraf, lui aussi a été blessé. Et 2 qui étaient présents avec eux sont sains et saufs. Lorsqu'il y a eu cette attaque, le père du martyr qui était très blessé a regardé en arrière, il a vu son fils qui était tombé. Il a arrêté la voiture, il l'a placé dans la voiture lui-même. En dépit d'être blessé, il est parti directement à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, Saad Farouk est tombé en martyr. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le martyr était moussi par la grâce de Dieu et il a été enterré à Rabwa le 21 octobre. Le martyr était très proche de sa famille. Sa mère déclare qu'avant de s'endormir, il venait nous voir à la maison et masser nos pieds. Et il nous offrait de lait et réglait la température du climatiseur. La mère du défunt disait qu'il était très obéissant envers nous. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas rejeté quelque chose que nous lui avons dit. Il voulait toujours offrir son sang. Lorsqu'on avait besoin de sang dans la région ou dans le quartier, il était toujours le premier à se présenter. Sa mère disait que je l'empêchais, mais il disait toujours que ce sang va partir. Pourquoi ne pas l'offrir à quelqu'un? Sa sœur Saba Farouk a déclaré que nous étions comme amis avec notre frère. Il était un frère qui nous aimait beaucoup. Les gens disaient que notre frère n'est pas de ce monde. Il était plus petit que nous, mais elle dit qu'elle nous traitait comme des enfants. Il était toujours prêt à nous servir. Toute personne qui le rencontrait était très proche de lui. Il sera vivant dans le cœur de tout le monde. Qu'Allah accepte son sacrifice. Sa veuve a déclaré qu'après le mariage, lorsque je parlais avec lui au téléphone, elle était aux États-Unis, mais elle disait à son épouse que je veux tomber en martyr. Il participait dans tous les programmes de la Jamaat et il servait au sein de la Houda Moul Ahmadiyya et au sein de la Jamaat. Le Qaïd Houda Moul Ahmadiyya a déclaré que le martyr possédait de grandes qualités. La plus grande qualité en lui, c'était son humilité. Il a déclaré que tout le temps, lorsque je l'appelais pour accomplir une tâche quelconque, lorsque je l'invitais, il baissait toujours sa tête et répondait tout simplement « Oui, monsieur le Caïd ». Son obéissance était incomparable. Il était toujours fidèle envers le califat et il s'adressait toute personne par son titre. Au cours de cette dernière année, je l'ai placé comme responsable dans une région où il y a une grande hostilité contre la Jamaat. En dépit de son jeune âge, il a fait preuve d'une grande bravoure, une bravoure incomparable. Il complétait toujours toutes ses tâches et me téléphonait lorsqu'il avait complété sa tâche. J'étais toujours étonné en lui disant qu'il se trouve dans une région très dangereuse et qu'il doit s'occuper très bien de lui. Il était toujours prêt à coopérer avec nous dans des situations très difficiles. Son père a été grièvement blessé. On a essayé de le cacher que son fils est tombé en martyr. Il était à l'hôpital et il a dû que je sais que Sarah est tombée en martyr. Je ne suis pas triste. Laissez-moi voir le visage de mon fils. Et il est parti voir son fils et l'a embrassé sur le front et il lui a salué. Si tels sont les sentiments des pères, des mères et des sœurs de ces martyrs, eh bien, l'ennemi ne pourra pas porter atteinte à leur foi. Le beau-père du martyr est blessé et il est dans une situation critique. Il était venu pour le mariage de sa fille des États-Unis. Qu'Allah lui accorde une bonne santé. Le deuxième martyr est Bashir Ahmad Bhatti, qui est de Baldia Town, de Karachi. Il est tombé en martyr le 23 octobre dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est son grand-père, Mia Mohammed Akbar, qui a embrassé l'Ahmadiyya en premier dans sa famille. Une délégation était partie de son village pour Qadian et ils ont embrassé l'Ahmadiyya. Et lorsqu'ils ont retourné chez eux, nombre de personnes ont embrassé l'Ahmadiyya. Et parmi ces personnes, il y avait le grand-père du martyr. Ils étaient de la région du Cachemire. Ensuite, ils s'étaient établis dans la région du Sindh. Le jour où il est tombé en martyr, vers 9h du soir, il était dans son magasin. Deux personnes sont venues à moto et on lui a tiré et il a reçu 3 balles. On l'a transporté à l'hôpital, mais il est tombé en martyr. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il avait environ 67 ans. Il était né au Cachemire. Il n'avait pas fait de grandes études. Il s'était établi au Karachi en 1984. Il travaillait dans des usines et il avait ouvert un magasin devant sa maison. Il s'est très bien occupé de l'éducation de ses enfants. Un de ses petits-fils est en train de faire ses études à la Jamia Ahmadiyya et il lui a conseillé de servir la religion. Il coopérait toujours avec la Jamaat et il était empli d'amour pour le califat. Il a laissé 2 fils et 3 filles et son épouse, qu'Allah soit le protecteur de toutes ces personnes. La troisième personne qui est tombée en martyr est le docteur Raja Abdulhamid Khan, fils de Mokaram Raja Abdulaziz. En 1994, un certain Raza Bismil est entré en contact avec le père du martyr. Il y a eu plusieurs sessions avec ces personnes et c'est le martyr qui a embrassé l'Ahmadiyya en 1994. Et après quelque temps, son père et sa mère ont embrassé l'Ahmadiyya. Les aïeux du martyr sont de la tribu Yousufzai de l'Afghanistan. Le grand-père du martyr était le secrétaire du Nawab de Hyderabad. Le martyr lui-même est né en 1972 à Karachi. Il a fait ses études dans la région. Ensuite, il a travaillé dans la marine. On l'appelait docteur parce qu'il travaillait dans la clinique de son père. Après avoir complété sa tâche au sein de la marine, il est retourné chez lui et a travaillé avec son père. Le 23 octobre dernier, la nuit, deux personnes à moto se sont approchées de lui. Un des assaillants est resté à moto, le deuxième est entré dans la clinique et lui a tiré 3 balles. Une balle a traversé sa joue gauche pour sortir dans la joue droite et il a reçu une autre balle sur l'épaule gauche. Et il est décédé sur le coup. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le martyr était toujours prêt à servir la Jamaat. Il était le secrétaire Tarbiya Nour Mubarin, alors qu'il était Ahmadi depuis 1994. Il était responsable du département Dawat al-Allah. Il était responsable aussi des nouveaux convertis. C'était une personne qui possédait de grandes qualités. Il avait toujours un sourire sur le visage. Il parlait toujours à voix basse. Son épouse déclare qu'il s'occupait très bien de nous. Il était un très bon père et un très bon mari. Et il était toujours prêt à servir la Jamaat. Il avait un très grand amour pour le califat et pour servir la foi. Son épouse déclare que la situation à Baldia Town était très difficile en raison de l'hostilité. Un jour avant de tomber en martyr, il a dit qu'il y a certaines familles Ahmadis qui sont parties d'ici. Les ennemis sont en train de remporter la victoire. Et il était très triste. Il a dit que moi, je ne crains rien. Je désire tomber en martyr pour la cause de Dieu. Et il a demandé à son épouse si elle n'a pas peur. Son épouse a dit que non, je n'ai pas peur. Au contraire, moi aussi, je désire que vous tombiez en martyr et moi aussi que je tombe en martyr. Son épouse écrit qu'elle a 3 filles, 3 petites filles. Priez pour ces filles pour qu'Allah fasse qu'elles ont un bon avenir, qu'Allah soit leur protecteur. Le 4e martyr est Riyas Ahmad Basra, fils de Chaudhry Munir Ahmad Basra de Sialkot. Il est tombé en martyr le 18 octobre dernier. Son grand-père, Chaudhry Ghulam Rasool Sahib Basra, était un compagnon du Messie Premier Islam. Chaudhry Ghulam Rasool Sahib Basra était un compagnon du Messie Premier Islam, ou était un des enfants d'un compagnon du Messie Premier Islam. Le martyr est né en 1958. Et il y avait de l'hostilité contre lui dans le village. Son grand frère est tombé en martyr quelque temps de cela. Et certains de ses proches lui étaient hostiles. Mais il n'était pas impliqué dans ces situations. Mais il était toujours prêt à servir à la Jamaat. Et il était reconnu pour cela. Et c'est pour cette raison que certaines personnes lui étaient hostiles dans la région. Il y a certains mollahs qui sont venus de la région et qui ont soulevé ses ennemis contre lui pour transformer cette hostilité personnelle en hostilité en raison de la Jamaat. Ils ont dit que si vous le tuez, bien, personne ne va rien vous demander parce que c'est un Qadiani. En tout cas, le 18 octobre dernier, après la prière d'Isha, il était avec les Khuddam qui étaient de service. Ensuite, il retournait chez lui lorsque certains inconnus l'ont attrapé et lui ont tiré dessus. Et il est tombé en martyr. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était très actif au sein de la Jamaat. Pour 4 ans, il était qaïd de la Majlis Khuddam al-Ahmadiyya et il a servi à différents postes au sein de la Jamaat. Il a servi aussi au sein de la Ansarullah. Il avait un très grand sens de l'honneur pour la Jamaat et il était très obéissant envers la Jamaat. Il avait un très grand amour pour le califat. qu'Allah exalte son statut et qu'Allah lui accorde son pardon et qu'Allah accorde patience et persévérance à ses enfants. C'était là une mention concernant les martyrs. En sus de cela, je vais diriger la prière funéraire de deux autres personnes et je vais diriger aussi la prière funéraire de ces martyrs, parmi lesquels il y a Mokarram Abdurrahman Al-Jabali Saheb de l'Arabie Saoudite. C'était un converti et il est décédé le 9 octobre dernier. Et il avait 47 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était venu en 2010 pour la Jalsa Salana. C'était une personne circonspecte. Il avait cette certitude concernant le progrès de la Jamaat. Il a déclaré que nombre de personnes ont reçu le message du Messie premier l'Islam et c'est l'Ahmadiyya qui va réunir tous les gens de son peuple. Depuis sa tente en France, il cherchait la vérité et il est passé par différentes situations, mais en fin de compte, il a reçu cette faveur qu'est l'Ahmadiyya et sa foi était très ferme. Partout, il prêchait le message d'Ahmadiyya depuis 2 ans. Il disait que ce n'est pas la peine de prêcher le message de l'Ahmadiyya, car tous ont entendu parler de l'Ahmadiyya, mais les gens n'ont pas le courage d'accepter l'Ahmadiyya. Il était venu ici en 2010 et il a fait preuve d'une grande sincérité. Un nouveau converti de l'Arabie Saoudite a écrit à propos de Abdurrahman en disant qu'il n'était pas malade, mais il est décédé d'un arrêt cardiaque. Nous sommes témoins qu'il était très proche de nous. C'était une personne qui possédait de grandes qualités, qui passait son temps dans le souvenir de Dieu. Le monde n'avait aucune importance à ses yeux. Il était toujours prêt à servir les pauvres. Après sa conversion, il s'était complètement détourné de ce monde. Ensuite, il y aura la prière funéraire de M. Abdoussami Mohamed Jalal Saheb de l'Égypte, qui est décédé le 11 octobre dernier. Il est le père de Khalid Izzat Saheb. Son fils écrit que son père Abdoussami est décédé le 11 octobre dernier. Auparavant, il était hostile envers la Jamaat. Mais lorsque moi-même j'ai embrassé l'Ahmadiyya, et lorsque mon frère, qui était hostile lui aussi envers l'Ahmadiyya, a accepté l'Ahmadiyya, et lorsque on a parlé à propos de la Jamaat, il a déclaré que nous sommes tous deux musulmans. Mais il a dit que ce n'est pas la peine de signer sur le formulaire de la Baya. En 2009, il a été blessé, il est resté chez moi pour quelque temps et il a regardé la MTA et il a rencontré les Ahmadis qui sont venus me rencontrer. Et en fin de compte, en 2010, il a embrassé l'Ahmadiyya. C'était une personne qui était pieuse, qui passait son temps de la prière tahajjud. Et il était toujours empli d'amour pour le saint prophète Mohammed paix soit lui et enseignait cela à ses enfants. Son fils déclare que j'ai fait le Hajj avec lui en 1998 et j'étais Ahmadi par la grâce de Dieu. Qu'Allah exalte le statut des défunts et qu'Allah exauce leurs désirs concernant leurs enfants et concernant leurs concitoyens.